Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Culture Flip, la culture à 360 degrés. Nous allons vous présenter la Radio Gaco, une émission produite et réalisée par les étudiants de DUT Gaco, gestion administrative et commerciale de l'IUT Littoral Côte d'Opale à Saint-Omer. Nous sommes en présence de trois chroniqueuses, Louise, Elodie et Sidonie. Elles vont nous présenter leur sujet d'actualité qui approfondira votre culture. Jingle! Bonjour Elodie, merci de votre présence.
Bonjour Jeanne et bonjour à tous.
Vous êtes ici pour nous parler d'un sujet dramatique qui a marqué les esprits et a suscité beaucoup de réactions à travers le monde en 2019.
Oui, en effet, on se souvient tous du 15 avril 2019, le jour où un terrible incendie a ravagé toute la charpente de Notre-Dame de Paris. Ce drame a en effet suscité beaucoup d'émotions et fait d'ailleurs encore aujourd'hui l'objet de débats concernant l'utilisation des dons et sa restauration. La question qu'on se pose finalement tous est de savoir quelles ont été les conséquences économiques, architecturales, culturelles et émotionnelles de cet incendie dévastateur.
Oui, en effet, c'est un événement qui nous a tous marqués, mais expliquez-nous un peu quelles ont été les réactions justement.
Eh bien, ce drame a provoqué des émotions dans le monde entier, et ce, bien au-delà de la croyance. Marie-Laure, l'avenir directrice générale d'ICOMOS, nous témoigne à travers l'article « Incendie à Notre-Dame de Paris, pourquoi tant d'émotions même chez les non-croyants ?» publié sur le site web 20 minutes. C'est un jalon de notre histoire commune, une manifestation de l'art gothique et un point de l'humanité. C'est d'ailleurs en voyant les réactions de tous les pays du monde que nous visualisons mieux le concept de patrimoine de l'humanité. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ce témoignage résume très bien l'émotion que chacun a pu ressentir. De plus, cette catastrophe a eu un énorme impact sur des personnalités connues à travers le monde qui n'ont pas hésité à partager leur chagrin devant les images de l'édifice en feu. L'article de 20 minutes, l'incendie à Notre-Dame de Paris, les stars du monde entier pleurent les célèbres édifices, cite notamment Patti Smith, Idris Elba, Naomi Campbell, mais également Jess Hughes, le leader d'Eagles of the Death Metal, qui lui s'est adressé en français à ses abonnés en écrivant un long message de tristesse sur Instagram. Il y a eu un reportage réalisé par BFM TV posté sur YouTube, présentant le drame et l'extrait entre 14 minutes 21 et 15 minutes 48, lui nous montre les réactions qui s'en est suivies. Je vais d'ailleurs rebondir sur ce qu'a exprimé le deuxième témoin, mais c'est vrai que cette cathédrale a survécu à beaucoup d'épisodes tragiques et il n'a fallu qu'un simple incendie, dont on ne connaît d'ailleurs toujours pas la cause, pour effacer une partie de l'édifice et plus de 800 ans d'histoire. C'est terrible.
Effectivement, nous avons vu un peu partout les réactions qui ont même été planétaires. Et cela a d'ailleurs suscité une énorme vague de dons.
Exactement, les réactions ont été suivies d'une vague impressionnante de dons envoyés de toutes parts dans le monde pour aider à la restauration du monument. Les magistrats de la Cour se sont d'ailleurs penchés sur le sujet de l'utilisation de ces dons. L'article Notre-Dame, un chantier sous haute surveillance, paru dans le Figaro, souligne que près de 338 000 particuliers et entreprises issues de 140 pays ont versé 825 millions d'euros pour contribuer à la remise en état d'une des cathédrales les plus connues au monde. Alors que les premiers chantiers d'urgence ont bien été assurés grâce aux dons, l'article Notre-Dame, la gestion des dons épinglés, rédigé par Midi Libre, met lui l'accent sur un point en particulier. En effet, les dons servent également à financer les dépenses de fonctionnement courant de l'établissement public, soit 5 millions d'euros par an, pour régler notamment les salaires de 39 personnes et 476 mètres carrés de locaux dans le 7e arrondissement de Paris, pour un loyer d'environ 260 000 euros par an. Ce manque de transparence quant à l'utilisation des fonds versés exclusivement au sauvetage de l'édifice est encore une fois une preuve que les pouvoirs publics ne nous disent pas tout. Écoutons cette fois l'extrait du même reportage réalisé par BFM TV qui met ici en valeur l'afflux de dons reçus par la Fondation du Patrimoine.
Une émotion planétaire qui se traduit par un élan de générosité de très grande ampleur. En première ligne pour récolter les dons, la Fondation du Patrimoine. Une organisation dédiée à la préservation des édifices historiques.
Fondation du Patrimoine, bonjour.
Dans ses bureaux, depuis lundi, les téléphones sonnent sans discontinuer.
On a eu des appels des États-Unis, de l'Amérique du Sud, de toute l'Europe, de Chine, de Singapour. C'est non-stop, on est entre 4 et 5.
Ça est automatiquement.
4 ou 5 personnes à répondre, alors que normalement Nathalie est seule à répondre. Donc,
et vous le recevez.
On est vraiment débordés.
Ici, les dons de particuliers représentaient déjà mercredi 11 millions d'euros.
Le don est en augmentation.
Guillaume Poitrinal est le président de la fondation. C'est lui qui collecte les promesses de contribution les plus importantes, comme ici, avec ce simple post-it.
Ouais, super, super, super. Le Qatar ? Ok, ah bah c'est génial. Encore confidentiel, donc voilà, on verra. Ça vient du Qatar, on verra de qui. Hein. Je vous dis pas de qui ça vient, mais 10 millions d'euros. Kaufmann et Broad, voilà, 100 000 euros, BNP, 100 000 euros pour BNP Paribas Real Estate, formidable.
Des millions, comme s'il en pleuvait. Plus de 140, en ajoutant les dons des entreprises. Une surprise pour le président de la fondation, pourtant grand habitué des collectes de dons.
Et très honnêtement, on pensait qu'on allait faire une collecte traditionnelle. Hein, les grosses collectes chez nous, c'est voilà, quelques millions d'euros. Quand on dépasse la dizaine de millions d'euros, on est vraiment sur les très gros sujets. 140 millions d'euros, c'est vraiment pour le coup du jamais vu. Alors c'est à la hauteur du drame, hein, parce qu'on va quand même, là pour le coup, avoir des dépenses très très considérables.
C'est en effet un énorme élan de générosité qu'a reçu la Fondation du Patrimoine qui ne s'attendait pas à tant. Mais qu'est-ce qui va être mis en place pour rénover l'édifice ?
Alors, en ce qui concerne l'architecture, le très célèbre roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, et plus précisément le troisième livre intitulé Notre-Dame, évoque la cathédrale, son histoire et ses restaurations mal pensées déjà au XVe siècle. Mais revenons à notre époque et précisons qu'un appel à compétences a été lancé afin de restaurer l'édifice ravagé par les flammes. Celui-ci a été prononcé dans un article paru dans le Moniteur intitulé « Notre-Dame de Paris recense ses savoir-faire ». De ce fait, artisans, maîtres d'art et autres entreprises capables de justifier de leurs qualifications en matière de travail de la pierre, du bois ou encore du métal doivent se faire connaître. Le général d'armée Jean-Louis Georgelin précise l'objectif de cet appel « permettre à tous les artisans, maîtres d'art et entreprises compétents, en adéquation avec les besoins exprimés, de se faire connaître et s'assurer, conformément aux souhaits du président de la République, que le chantier de Notre-Dame puisse être une vitrine de l'excellence de ses corps de métiers et savoir-faire, souvent peu ou mal reconnus alors même qu'ils sont des métiers d'avenir. » C'est vrai que cette rénovation est un chantier titanesque et très technique, puisqu'il faut essayer de garder un maximum le charme gothique de la cathédrale. Les ingénieurs qui vont être chargés de la reconstruction seront, je pense, considérés comme des héros. Voilà, donc comme on peut le voir, cette cathédrale est très appréciée et chacun a été touché d'une manière ou d'une autre par ce qui s'est produit le 15 avril de l'année précédente. On espère en tout cas que Notre-Dame pourra être rénovée d'ici les prochains mois, tout en préservant le charme qu'elle apporte à la capitale française depuis plus de 800 ans.
On lui souhaite effectivement un beau rétablissement. Merci beaucoup Élodie, revenez quand vous le souhaitez, je serai heureuse de vous accueillir de nouveau. Si la catastrophe de Notre-Dame de Paris a marqué l'année 2019, l'année 2020 a été marquée par le coronavirus et c'est Sidonie ici présente qui va nous en parler. Bonjour Sidonie, merci d'être avec nous sur le plateau.
Bonjour à tous.
L'année 2020 a été marquée par le coronavirus. Rassurez-vous, on ne va pas vous parler de chiffres d'épidémie, de vaccins, les autres médias le font bien assez. Sidonie va plutôt nous parler de la place qu'a pris le masque dans notre société actuelle.
Tout à fait, Jeanne. Le masque en lumière a pris une place très importante, car oui, depuis l'annonce du port du masque obligatoire en France, c'est là qu'il est alors devenu un accessoire indispensable. Car après l'appel à l'aide de l'État français auprès des industries textiles, elles ont alors mobilisé leurs usines en France pour la conception et la fabrication de masques en tissu. C'est alors que cette fabrication est devenue un véritable business. Car avant tout, cela était pour venir en aide aux soignants qui, eux, en avaient grandement besoin car ils étaient en première ligne face à ce virus. Donc c'est pour cela que le masque a pris une place si importante dans le milieu de la mode, un accessoire qu'on espère cependant rester éphémère. Je vais alors vous expliquer la place qu'a pris le masque en 2020, surtout dans le milieu de la mode. Car comme vous le savez si bien, en 2020, nous avons été touchés par un virus très mortel dans le monde entier. Il s'est attaqué aux citoyens, à l'économie, mais aussi aux entreprises de toute taille, de chaque secteur d'activité ont finalement été affectés. Plus particulièrement en France, car comme vous le savez si bien, nous avons été confinés de mars à mai. Le masque aujourd'hui est encore malheureusement obligatoire et d'après certains dires de certains ministres, il serait obligatoire jusqu'aux vacances prochaines. Et j'entends par vacances, vacances d'été. Et vous êtes également conscient que nous sommes également en deuxième vague de l'épidémie, donc nous sommes à nouveau confinés comme l'a si bien dit notre président le 28 octobre, car nous sommes dans la deuxième vague malheureusement. Et les règles sanitaires se sont également durcies, telles que des couvre-feux, par exemple à Paris, et aussi l'annonce du port du masque obligatoire à partir de l'âge de 6 ans. Donc c'est-à-dire que les écoles restent ouvertes, ce qui différencie le second confinement du premier. Cela veut dire qu'il y aura également plus de masques vendus, donc plus de masques utilisés. Cependant, le port du masque obligatoire, lors de son annoncé, était vraiment très surprenante et faisait extrêmement peur. C'est pour cela que la France a connu une pénurie, un gros manque de masques en France, plus particulièrement dans les hôpitaux qui, eux, sont en première ligne face à ce virus mortel, ce qui est très problématique. C'est alors que l'État français a réagi et a fait appel aux maisons de textile qui se sont tous mobilisées afin de la fabrication de masques en tissu pour que tous puissent en avoir. Plus particulièrement les maisons de luxe telles que Louis Vuitton, Gucci, Prada, Budweiser ont approvisionné tout d'abord les soignants en masques et finalement les masques aujourd'hui se retrouvent un peu partout, en pharmacie, dans les commerces. Même les communes ont donné des masques à leurs citoyens. Cela a permis de pallier au manque de masques dans les hôpitaux. Donc les usines se sont mises à la fabrication, la confection de masques en tissu, afin que tout le monde puisse en avoir. C'est alors une création d'un véritable business qui profite alors aux entreprises qui renflouent les pertes perçues lors du premier confinement. Donc, ils profitent de cette tendance en surfant sur le masque unique, original, en créant des pièces pour tous.
Mais comment le masque a-t-il pu prendre une place aussi importante dans le milieu de la mode en 2020 ?
Simplement car les entreprises se sont intéressées à ce nouveau business. Plus particulièrement le domaine du luxe, un accessoire devenu obligatoire en 2020, cousu de différentes manières, de différentes matières, de différents styles, de différents textiles aussi. Une véritable tendance dont les marques en profitent, des styles décalés et originaux afin de pouvoir créer le modèle unique. Le secteur de la mode, un nouveau business en or, tout particulièrement le domaine du luxe avec ses différents types de masques. Je vais vous citer quelques exemples, tels que Lacoste avec son masque unique avec le simple logo sur le côté à 15€, mais il ne faut pas oublier qu'un masque se porte seulement 4 heures et n'est utilisable que 20 fois. Donc 15€ le masque utilisable seulement 20 fois et 4 heures, je trouve ça un petit peu très onéreux.
Tous n'ont pas un prix exorbitant, non ?
Non, bien sûr, tous n'ont pas un prix aussi exorbitant. Il en existe énormément avec des prix très abordables. Ils servent juste sur le fait que le masque est obligatoire maintenant à partir de 6 ans, dans les rues, dans les écoles, les centres commerciaux, et comme je l'ai dit plus tôt, les écoles restent ouvertes, donc il faut au moins 2 masques par jour. Et c'est alors que l'appel à l'aide de l'État français est devenu un véritable business, profitant alors aux marques qui profitent du fait que le masque soit obligatoire pour mettre des prix aussi exorbitants.
Est-ce qu'il y a pas mal d'effets négatifs à produire autant de masques ?
Malheureusement, oui, il existe pas mal d'effets négatifs à la production de masques, car aujourd'hui, à l'heure actuelle, nous ne sommes plus en production mais en surproduction. Le problème des masques aujourd'hui, c'est le côté écologie. Car on peut d'ailleurs en retrouver un peu partout dans le monde, par terre, dans les océans. C'est d'ailleurs un véritable massacre, un désastre pour l'environnement. On peut souvent voir sur les réseaux sociaux des campagnes de sensibilisation face aux animaux qui se bloquent dans les masques, plus particulièrement dans les masques chirurgicaux. Car on peut les voir coincés dans ces masques, dans les lanières ou des animaux en train de les manger. C'est pour cela qu'il est important de couper les ficelles du masque chirurgical et de les jeter dans une poubelle, également le masque, pas par terre. Car aujourd'hui en France, malgré cela, ils ont mis en place une amende de 68€ actuellement pour toute personne jetant son masque par terre ou dans la mer, je ne sais autre endroit. Mais malheureusement, est-ce que cette loi est-elle vraiment respectée ?
Eh bien, merci Sidonie pour cette chronique enrichissante et n'oubliez pas de porter votre masque. La mode est aussi au cœur de l'actualité à cause de son coût environnemental. Et c'est ce dont va nous parler Louise. Bonjour Louise, bienvenue sur le plateau.
Bonjour à vous et à nos auditeurs.
Vous allez donc aujourd'hui nous parler du problème environnemental lié à l'industrie textile, mais surtout des solutions que l'on peut trouver, n'est-ce pas ?
Oui, c'est ça. Depuis plus de 30 ans déjà, les scientifiques parlent du changement climatique et du problème environnemental. Selon l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, l'industrie de la mode émet 1,2 milliard de tonnes de CO2 par an, soit 10% de l'émission totale de CO2 selon l'ONU, soit plus que les transports aériens et maritimes réunis. Et le monde continue à acheter de plus en plus de vêtements et de textiles. Le secteur de la fast fashion a explosé ces dernières décennies. La fast fashion, c'est un segment de l'industrie textile et la particularité, c'est le renouvellement constant. Il y a des nouveaux vêtements qui sont proposés sur les sites chaque mois, ce qui contribue à l'hyperconsommation et donc au problème environnemental que l'on connaît aujourd'hui. Les jeunes générations, donc Y et Z, sont nées au cœur de ces problèmes environnementaux et c'est pourquoi ils ont conscience du problème climatique, bien plus en tout cas que les générations antérieures, mais ils ont aussi grandi dans une société d'hyperconsommation.
Alors comment allier plaisir de consommer et respect de l'environnement ? Comment mieux consommer ?
Ces dernières années, le marché de la seconde main explose. Tout le monde veut revendre ses anciens vêtements et en acheter de nouveaux qui ne sont pas si neufs. Mais pourquoi ? Ça permet simplement de changer régulièrement de dressing sans acheter forcément des vêtements neufs en boutique qui ont fait un trajet de milliers de kilomètres et réchauffé la planète. En effet, ce marché de revente de vêtements est très convoité car les individus ont envie de mieux consommer et de consommer durable.
Mais la seconde vie de nos vêtements, est-ce vraiment durable ?
Oui, les trois dimensions du développement durable sont respectées. Bien sûr, il y a l'écologie parce que les vêtements ils ont une seconde vie, ils retrouvent une utilité, ils ne sont pas jetés. Ils sont recyclés, ça permet de pas acheter ou du moins de moins acheter des vêtements neufs qui ont un impact négatif sur l'environnement. La dimension économique, elle est aussi respectée parce que l'entreprise qui sert de plateforme pour revendre les vêtements, elle fait un profit en prenant une commission sur les ventes et aussi grâce à la publicité. Pour l'acheteur, ça permet d'acquérir des produits de meilleure qualité qu'il aurait peut-être pas pu s'acheter faute de budget neuf. Et pour le vendeur de ces vêtements, c'est l'occasion de se débarrasser de ses vieux vêtements tout en se faisant un peu d'argent et en faisant plaisir à quelqu'un d'autre. D'où la dimension sociale, elle est aussi prise en compte. On peut discuter avec des personnes qui ont la même passion de la mode que nous et c'est ouvert à tous. L'achat de vêtements de seconde main, ça donne une image durable et engagée à notre achat. Et le consommateur, il se sent plus impliqué et engagé. Il est fier et il est heureux d'avoir fait une bonne affaire tout en consommant mieux.
Mais donc, comment vendre ces vêtements ?
Pour vendre ces vêtements, il y a des plateformes collaboratives communautaires en ligne qui existent, généralement sous forme d'applications mobiles, où se rencontrent vendeurs et acheteurs. Les plus célèbres sont Vinted, United Wardrobe, Vestiaire Collective, Vidressing, et il y en a encore plein d'autres. Vinted, c'est le leader sur le marché français. Selon Thomas Platenga, c'est le PDG de la marque lituanienne. Il y a 10 millions d'utilisateurs de Vinted en France. Ce chiffre, il est très évocateur du phénomène parce que ça veut dire qu'il y a environ un Français sur 7 qui est inscrit sur l'application et c'est énorme.
Mais d'où vient ce succès ?
Ces plateformes, elles ont tout pour plaire. Sans compter la recherche d'une meilleure consommation, le succès de ces entreprises se fait surtout grâce à l'application elle-même. L'application, elle est très simple d'utilisation. Il suffit de prendre quelques photos directement avec son téléphone, en fait, et de poster l'annonce et le tour est joué. Ça prend peu de temps, la communication avec le vendeur ou avec l'acheteur, elle est super rapide et simple. Tout est instantané, en fait. Et le fait que ce soit une application aussi ludique, ça joue pour beaucoup. Parce qu'à n'importe quel moment de la journée, on peut se faire de l'argent ou faire son shopping. Les temps dans les transports en commun, comme dans les bus ou les métros, qui étaient avant des temps morts ou gaspillés, ils ne sont plus du tout gaspillés, ils sont utiles à la consommation aujourd'hui. Ces plateformes, elles sont surtout utilisées par les millénials, les générations Y et Z. Ils sont généralement étudiants ou jeunes actifs et ça permet de se faire un peu d'argent assez facilement. Mais aussi dans un souci écologique d'une envie de mieux consommer, ils utilisent ces sites web. Et cet individu donc des générations Y et Z, il est hyper connecté, mobile, encore plus que les autres consommateurs. Il est constamment sur son téléphone ou sur son ordinateur et donc il peut constamment vendre ou acheter sur ces plateformes en fait. Le marché de la seconde vie de nos vêtements, il n'a jamais pesé pour autant qu'aujourd'hui. Les grandes marques commencent à créer leur propre rayon seconde main dans leur boutique ou sur leur site. C'est le cas pour la marque de luxe Bache, mais aussi pour Zalando, H&M ou ProMode. Mais le secteur de la seconde main, il ne concerne pas seulement les vêtements. L'entreprise suédoise IKEA, elle va ouvrir son premier magasin entièrement dédié à la revente de meubles déjà utilisés.
Merci Louise. Vous l'aurez compris, donnez une seconde vie à vos vêtements. En parlant de mode, restons sur ce sujet avec la polémique sur les adolescents, adolescentes et leur style vestimentaire. Je vais passer la main à Sidonie afin que je présente à mon tour mon sujet.
Effectivement, Jeanne va nous parler de la tenue républicaine et les nombreux débats qu'il y a autour de cette tenue.
Oui, je vais vous parler de la tenue républicaine. En effet, durant le mois de septembre, une polémique a éclaté, ce qui a engendré une révolte des étudiants et étudiantes sur les réseaux sociaux. C'est le 14 septembre 2020 que le débat sur les règlements vestimentaires à l'école est réapparu. Les adolescentes se sont manifestées en publiant des photos sur Twitter, Instagram ou en allant au collège, lycée, en étant habillées de manière provocante, mini-jupe, décolleté très plongeant, maquillage exagéré, etc., afin de dénoncer les tenues correctes, ce qui a entraîné le mécontentement de certains professeurs ou directeurs d'école, mais aussi le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, qui lui a décidé de s'exprimer. Je cite ses paroles, exprimées sur le plateau de RTL France, « Il prône une position d'équilibre et de bon sens, explique qu'il suffit de s'habiller normalement et tout ira bien, et affirme que chacun peut comprendre qu'on vient à l'école habillé d'une façon républicaine, c'est-à-dire qui permette une plus grande égalité entre tous. La tenue républicaine, pour ne pas dire tenue décente, a engendré une vague de colère au sein du gouvernement et de la jeunesse.
D'ailleurs, beaucoup de célébrités ont réagi face à cette polémique.
En effet, certaines grosses têtes ont réagi dans l'émission de France Inter, comme Marlène Schiappa, qui se dit en tant que mère soutenir avec sororité et admiration la révolte des jeunes filles. Aussi, Éric Piolle, qui s'exprime en disant que le problème c'est le regard des hommes, et affirme que là où certains sont obsédés par le corps des femmes, moi je suis obsédée par le droit des femmes. Il s'exprime de façon très sensée que les femmes s'habillent comme elles le veulent et éduquons les hommes dès le plus jeune âge pour ne pas qu'ils regardent les femmes avec un regard de femme objet. Ou encore Agnès Pannier-Runacher qui exprime « Aller à l'école, pas comme on va en soirée ». Agnès qui à la fois est contre les tenues décentes à l'école mais qui se dit comprendre la réaction des jeunes filles car elle n'accepte pas que ce débat est porté que sur les filles et non pour les garçons. Je cite « La tenue décente, ça vaut pour tout le monde, on sait très bien ce que c'est ». Désolée de revenir encore sur le sujet, mais nous traversons un épisode de crise sanitaire de la Covid-19 et Sophie Fontanelle en a profité pour exprimer son avis en postant un tweet, je cite « J'essaie de les comprendre ces jeunes pris dans l'enfer des dystopies. Dans l'enfer des dystopies, les rassemblements interdits et les masques. Le masque à 18 ans, les habits sont leur seule manière de s'exprimer, il faut comprendre ça. »
Comment ont réagi les internautes face à ce tweet ?
Alors, les internautes se sont exprimés aussi à l'aide de sondages réalisés par le journal Marianne qui a interrogé plus de 2000 personnes sur une population âgée de 18 ans résidant en France métropolitaine, avec des questions précises sur la tenue des jeunes filles accompagnées des dessins archi-sexualisés à l'appui. Je vais vous présenter les résultats du sondage à la question « Souhaitez-vous que les lycées publics autorisent ou interdisent aux filles le port du vêtement suivant dans l'enceinte de leur établissement. 66% souhaitent interdire le no-bra, qui est le non-port du soutien-gorge pour les jeunes filles lycéennes, 62% un décolleté plongeant, 55% le croc-top où on voit le nombril, 56% un mini-short, 49% une mini-jupe, 48% une robe moulante, 30% un jean à trous. Sondage qui a fait bondir de nombreux internautes qui dénoncent un sondage ignoble, sexiste et moralisateur. Notamment la dessinatrice Pénélope Pagieux, furieuse, qui a reposté sur Twitter ce sondage et a créé son propre sondage. Je cite « Ah oui, moi aussi je fais un sondage. Acceptez-vous de vous trop la paix aux lycéennes bande de tarés et d'aller vous faire cuire le cul ?»
Ce sujet est-il évoqué dans d'autres médias et réseaux sociaux ?
La semaine dernière, j'ai commencé une série sur Netflix qui s'appelle Grand Ernie. C'est une série américaine qui se passe dans un lycée. Un épisode m'a fait penser à ce sujet. Une jeune adolescente, Jo, se prend une réflexion par un professeur sur son style vestimentaire trop, soi-disant trop aguichant, qui a décidé de ne pas se laisser faire et organiser pour ceux qui le souhaitaient la journée sans soutien-gorge qui consiste à porter un t-shirt blanc accompagné d'une écriture noire qui est marquée « Libérer les tétons », traduit en anglais. Ainsi, presque tout le monde a joué le jeu, notamment les garçons, et le message n'est pas passé inaperçu. Et vous, pour ou contre le no-bra, la mini-jupe à l'école ou l'uniforme scolaire?
Nous vous remercions d'avoir écouté cette émission. Si vous le souhaitez, vous pouvez retrouver celle-ci sur notre site web www.studiogaco.fr. N'hésitez pas à réagir sur notre Twitter Gaco Studio. Bonne journée et bonne semaine à vous et à bientôt.